En direct d'un radio vélo, hein, ce lundi, mercredi. Bah oui, c'est l'habitude, ça. Hein.
Lundi, n'importe quoi.
On la refera tout à l'heure, hein, l'enregistrement, bien sûr. Non, vous êtes en direct sur CETA Radio. Nous sommes le mercredi 9 septembre. Bienvenue. Et puis, c'est déjà la seconde émission de la rentrée, Julien.
Déjà, ça passe vite, déjà. Hein.
Allez, à nos côtés, l'ami Benjamin est avec nous. Bienvenue.
Et merci. Bonsoir à toutes et tous.
On a également Guillaume, bienvenue Guillaume.
Bonsoir tout le monde.
Et une nouvelle venue également, la semaine dernière c'était un nouveau venu avec Benjamin aujourd'hui. Eh bien c'est Mélanie qui est avec nous. Mélanie, bienvenue dans l'équipe de Radio Vélo.
Merci.
Donc la voix féminine de Radio Vélo qui fait suite aussi au partenariat qu'on a présenté la semaine dernière avec Gilles Girardeau, c'est ça?
Bonsoir à tous et à toutes.
Oh, faut que tu te rapproches un petit peu du micro et je te monte un peu le son parce que sinon on ne va pas t'entendre. Sinon.
Ah, c'est le début, c'est le début. Le programme de cette émission va commencer bien par parler de la Vuelta. On va faire le point après le chrono alors que Guillaume, tel une égérie, prend Mélanie en photo. La pauvre, elle n'y coupe pas.
Je préviens pas sinon les gens disent non.
Non, bah, c'est sûr. C'est comme ça. Et donc on va parler de la Vuelta et puis à 19h20, invité de luxe dans Radio Vélo, c'est tout simplement le sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme qui sera en direct avec nous, Bernard Bourreau, Julien.
Ben, rien que le nom déjà, multiple fois sélectionneur d'équipe de France. J'ai des questions un petit peu particulières à lui poser justement pour savoir quand ton entraîneur est sélectionneur, comment on fait ?
Eh bien, ça tombe bien, il sera avec nous. On lui posera toutes nos questions et puis après pas mal d'autres rubriques. On aura le matériel notamment avec Guillaume. Guillaume, ça sera quoi à la suite de
toujours la suite de l'Eurobike. Il y a tellement à dire que j'en ai encore pour quelques semaines. Donc voilà la suite de l'Eurobike.
La suite de l'Eurobike. On parlera également et eh bien du sport régional avec Mélanie. Je vous le disais tout à l'heure, tous les résultats de l'été et puis un rendez-vous ce week-end. Je suis peut-être un peu distrait. Hein.
Non, pas distrait, mais je pensais que tu allais revenir un petit peu sur l'annonce fulgurante de Max de la semaine dernière.
Ça a beaucoup réagi, beaucoup bougé. Beaucoup réagi et notre ami Max sera avec nous tout à l'heure pour en discuter. Et puis on parlera également des petits pronos pour la suite de cette Vuelta. Mais la Vuelta, justement, on commence par là. Je vous rappelle que vous êtes connectés via Twitter, @radiovélo31 et la page Facebook Radio Vélo. Hay pistolas que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma.
Qui paraît qu'il y en a qui ont parié, qui ont perdu aujourd'hui là. Il y en a qui ont fait des paris, mais apparemment ils vont pas aller au resto ce soir.
Il faut tenter des choses. Mais bon, cette journée, il y avait un grand favori qui devait frapper un grand coup s'il ne voulait pas laisser toute chance de succès sur la Vuelta au placard. Dès ce soir, c'est Tom Dumoulin. Et comme le résumait tout à l'heure mon ami Baptiste Boutier de l'ancienne Team Vélo Chrono sur Twitter, Tom Dumoulin a gagné le chrono, pris le maillot rouge, mais perdu la Vuelta. C'est peut-être probablement ce qu'on va retenir de cette journée. C'est pas perdu, mais on savait que Tom Dumoulin avait besoin de refaire son retard sur les deux grimpeurs qui étaient Fabio Aru et Joaquin Purito Rodriguez. C'est ce qu'il a fait, mais il avait déjà perdu trop de temps peut-être pour les semer largement avant les dernières étapes de montagne. Dumoulin est en rouge, mais Aru est tout prêt. C'est plus compliqué pour Purito.
Et oui, Purito qui a perdu plus d'une minute, enfin qui a plus d'une minute maintenant de Tom Dumoulin, alors que Fabio Aru a fait un chrono. Peut-être on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse ça et du coup il se retrouve à 3 secondes de Tom Dumoulin. Et vu que sur cette Vuelta il y a des bonifications à chaque étape, cela pourrait jouer en la faveur de l'Italien, même si, vu qu'il n'y a plus d'arrivée au sommet comme il y en a eu ces derniers jours, Tom Dumoulin pourrait se défendre. Et je suis pas sûr encore qu'il ait totalement perdu la Vuelta pour ma part.
Bon, ça c'est intéressant, Guillaume, ton sentiment, peut-être Julien.
Moi, je l'ai suivi partiellement, mais je regardais les belles performances des Français avec Jérôme Coppel qui a fait une première partie de chrono un peu peut-être un peu en retrait, qui s'est bien rattrapé sur le final de ce contre-la-montre, qui vient prendre une belle quatrième place quand même. Derrière Valverde qui vient prendre une troisième place. Non, il fait exactement cinquième, Jérôme Coppel, derrière Basile Kirenga. Septième place aussi pour Romain Sicard, juste derrière Quintana. Fabio Roux prend la dixième place. Donc on a quand même deux Français qui sont là sur un contre-la-montre qui était quand même très exigeant, très technique. Non, de belles perfs. Après, bon, Tom Dumoulin, bon, je pensais qu'il tirait son épingle du jeu parce que voilà, c'était sa partie, mais je pensais pas que certains perdent plus de temps que ça, quoi.
Alors seulement 3 secondes de retard sur Tom Dumoulin pour Fabio Aru, le coureur italien de l'équipe Astana. Pourito Rodriguez est à 1.15 et après on a Machka à 2.22, Quintana à 2.53 et Valverde est déjà à plus de 3 minutes. Il y a pas mal d'Espagnols dans ce top 10, il y a 4 Espagnols, mais c'est vrai que ça va se jouer probablement entre les deux premiers garçons. On imagine mal, vu le début de cette Vuelta, un autre coureur tenter un grand raid.
Et oui, et d'ailleurs en parlant des Espagnols, la semaine dernière je disais qu'ils étaient un peu en retrait, et là ils sont bien remontés en seconde semaine, hein, finalement. Et par contre...
Et Tom peut-être écouter justement.
Et oui, ils attendaient peut-être le retour de Radio Vélo pour lâcher les chevaux. Mais sinon, pour parler des stratégies qu'il pourrait y avoir pour faire tomber Tom Dumoulin, au sens figuré bien sûr, qui pourrait attaquer de loin bien, moi, en réfléchissant, bon, Fabio Aru a la meilleure équipe avec Mikel Landa, qui est sans doute le meilleur grimpeur de cette Vuelta. Mais Fabio Aru, là où il est le plus fort, c'est sur les deux derniers kilomètres. Il a un finish monstrueux. Joaquim Rodriguez, c'est plus sur les 700 et 800 derniers mètres. Donc, c'est pas lui encore qui va attaquer de loin. Alors, peut-être Rafał Majka de la Tinkoff, qui pourrait, tel son leader Contador en 2012, attaquer de loin. Mais si Tom Dumoulin a une équipe qui est assez faible en montagne, puisqu'il n'y a que Lawson Craddock qui peut vraiment l'accompagner, eh ben, c'est peut-être l'Astana, vu que Aru est à 3 secondes, qui annihilera toutes les tentatives de loin.
Et ce qui était intéressant, c'est que Aru, eh bien, n'a pas fait, bien sûr, le Tour de France. Tom Dumoulin, si, il l'a fait. Il avait abandonné, je crois, assez rapidement.
Ouais,
il visait surtout le prologue et il n'a pas pu le remporter. Il était tombé sur un os, ou plutôt sur un as. Et, après, c'est vrai qu'il n'y a pas tant que ça des coureurs qui ont fait le Tour qui gagne la Vuelta, c'est ça?
Oui, alors même sans parler du Tour de France, j'ai regardé par rapport aux stats, depuis 2011 inclus, le vainqueur de la Vuelta n'a pas fait plus de 10 jours de Grand Tour dans l'année, puisque Contador avait gagné en 2014 après avoir fait 10 jours au Tour de France, on se rappelle de sa chute terrible dans les Vosges. Christopher Horner n'avait pas couru de Grand Tour de l'année. En 2012, Contador revenait de suspension et avait repris Alain Decaux-Tours. Et enfin, en 2011, Juan José Cobo n'avait pas non plus fait de Grand Tour. Donc, est-ce que c'est la stats que va continuer Tom Dumoulin, ou est-ce que Fabio Aru va prendre la succession de Vincenzo Nibali, qui en 2010 avait gagné la Vuelta après avoir fait un bon Giro?
Est-ce que c'est l'exigence de ces fameux parcours, comme tu disais, où on voulait en parler aussi, de ces parcours de chemin de chair qui arrivent avec des pentes très difficiles? On a vu encore avant-hier une arrivée avec des pourcentages où Franck Schleck gagne l'étape. Je me demandais si la roue arrière n'allait pas glisser tellement que ça montait, il est en équilibre.
Ça fait penser au braquet que mettent les cyclosportifs lors des cyclosportives. Justement, moi je parle pas des premiers, je parle plus du gros du paquet, avec des petits plateaux à l'avant, des gros braquets à l'arrière. Ouais. Et alors ces chemins de chèvre, je me suis un peu renseigné.
Oui, et moi aussi, parce que je savais pas ce que c'était, chemin de chèvre. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des troupeaux de chèvres qui sont passés? J'ai loupé l'image.
Alors en fait, ça vient de l'Angliru lorsqu'il a été découvert. C'était en 1997. C'était pas asphalté, c'était juste un chemin d'agriculteur qui montait avec les ânes. Et ils l'ont asphalté pour faire une arrivée mythique de la Vuelta. C'était Maria Jiménez qui avait gagné en 99 face à Pavel Tonkov pour la première édition. Et ensuite, il y a eu un concours de qui c'est qui a la plus grosse entre l'Italie et l'Espagne. L'Italie a sorti le Zoncola, puis le Plan des Coronés. Et l'Espagne, ces dernières années, a décidé de sortir chaque année des ascensions inédites, pas forcément longues, mais alors avec des pourcentages 15, 16, 17, 20, 22, 23%. Et donc sur le forum où je vais, veloque.net, un forumeur qui s'appelle Gâteau a dit que c'était une volonté vraiment affirmée et assumée des organisateurs de la Vuelta, puisque les médias généraux apprécient. Il y a une audience comme ils n'en ont jamais eu. Alors, les puristes, eux, se plaignent un peu plus, mais bon, l'important, on va dire, c'est l'argent quand même. Si ça marche, ils vont continuer.
C'est et le spectacle c'est aussi.
Ouais. Et pas tant que ça, finalement.
Pas tant que ça,
oui. Ouais, parce que, je veux dire, c'était quand lundi, c'était pas non plus, vu qu'il y a une pente tellement sévère que dès qu'il y en a un qui se dit je vais peut-être attaquer, il a peur de se faire contrer parce que...
Mais ils ont attaqué très tard d'ailleurs, les derniers se sont attaqués dans les 800 derniers mètres, ouais. Parce que c'était tellement pentu.
Alors, ben, je me demande moi si c'est pas plutôt, à 800 mètres, je sais que je peux attaquer et je sais que je peux le tenir. Alors que si j'attaque à 3 km du sommet, s'il y en a un qui se retrouve plus fort que moi, je risque d'être planté sur la route et de faire des zigzags.
Ouais, puis je peux me faire contrer derrière. Donc, ouais. C'est des stratégies. Mmh. Bon, on voit ça depuis quelques années sur le Tour. C'est vrai que le Tour aussi découvre des nouveaux cols. Le Giro, c'est pareil, avec des pentes des fois parfois très, très importantes.
C'est vrai que c'est propre au Giro et à la Vuelta. Et effectivement, ces pentes... souvent à plus de 20%. Au Tour de France, on a encore très peu ce genre de pente.
Ouais, il y a eu Péguerre.
Ouais.
Ce qui a été le plus bon.
Total, ils auraient trouvé mieux que de mettre des punaises et des clous. Ouais. Alors, bon.
Mais c'est vrai, comme le dit Guillaume, c'est surtout la Vuelta qui a décidé, ces dernières années, de mettre des petits cols. Donc, quand je dis petit, c'est 7-8 km quand même, avec un pourcentage moyen 9, 10, 11%, mais surtout avec des pourcentages monstrueux qui puissent se marquer là sur le profil, passage à 17, 20%. Et également, donc, ça fait partie de leur identité. Ils veulent vraiment que la Vuelta soit reconnue pour ça. Par contre, ce que je trouve pas judicieux, contrairement au Giro, c'est de les placer en fin d'étape. On le voit à la Classica San Sebastian, par exemple, ça bloque totalement la course. Alors que sur le Giro, je vais prendre l'exemple du Mortirolo, qui est quand même un col terrible. Ils le mettent à milieu d'étape avec un col bien moins dur après. Et là, ça force les coureurs à se découvrir à 30, 40, 50 km de l'arrivée. Les écarts sont faits au sommet. Les gars sont normalement très, très fatigués. Même sur une pente à 3, 4, 5% ensuite, les gars, ils sont un par un. Ils n'en peuvent plus, quoi. Je pense, selon moi, qu'on y gagnera un spectacle à ne pas mettre des arrivées au sommet qui vont bloquer la course, comme on en parlait tout à l'heure, à 3, 2, voire
parce
même...
Parce que c'est vrai, les plus belles étapes, souvent, d'ailleurs sur le Tour, sont celles qui n'arrivent pas au sommet. C'est là qu'on est obligé de se dévoiler, Guillaume.
C'est un peu ce qu'on disait aussi pour les championnats du monde, souvent, avec des distances assez hallucinantes de 280 bornes, et finalement, tout se joue dans les 20 derniers kilomètres. C'est vrai, quand il y a une arrivée au sommet, finalement, il ne se passe rien de toute la course. Ça se découvre vraiment sur la dernière pente, donc c'est vrai que c'est un peu dommage, je trouve. C'est vrai que l'exemple du Tour d'Italie est quand même beaucoup plus intéressant, je trouve, au niveau spectacle.
Et n'hésitez pas à réagir sur le Twitter @radiovelo31. Et oui, donc les trois hommes de cette Vuelta sont donc Dumoulin, Arou et Rodriguez pour le moment, alors qu'on a annoncé Quintana, Froome et Nibali. Froome est chez lui, peut-être forfait pour les mondiaux d'ailleurs. Nibali est chez lui, suspendu. Et Quintana, ben, il fait partie des coureurs qui ont fait le top 10 du Tour, même le podium, et qui sont dans le top 10 de la Vuelta. Combien sont-ils, messieurs? C'est pas question pour la Chapio, mais est-ce que vous avez regardé?
Qui ont fait le classement général du Tour de
qui
France?
Qui ont fait le top 10 du Tour cette année?
Cette année, deux.
Deux. Et ouais, les deux Movistar. Ouais. Quintana, Valverde.
Et les deux Movistar qui ont bien profité de la journée de repos, hein, parce qu'ils n'étaient pas terribles, surtout Valverde lundi.
Surtout
et là, d'un coup, aujourd'hui.
Ils ont profité pour réparer les vélos, Guillaume en parlera peut-être tout à l'heure.
Ouais, je vais
pas
en parler.
Pas de polémique.
Non, mais vous pouvez continuer.
Après Valverde, bon, on peut revenir un peu dessus. C'est vrai qu'il fait une sacrée année. Quand même.
Bah, il fait toujours de janvier à décembre. Voilà.
Cette année, c'est vraiment...
C'est quand même assez hallucinant, parce que ben, on voit qu'il y a peu de coureurs déjà qui arrivent à aligner Tour de France, Tour d'Espagne. Lui, il a aligné toutes les courses toute l'année. Peut-être pas autant de victoires que ce qu'il espérait, mais il a été présent toute l'année. Donc... À son âge, c'est quand même assez hallucinant. Est-ce que c'est peut-être l'âge qui aide... je sais pas, mais...
C'est vrai que quand on voit Pourito Rodriguez, on se dit qu'ils ont des vies de moines, ces mecs-là. Hein.
Ouais.
Non, c'est un fait tard.
J'en sais rien. C'est juste le surnom qu'il avait, Pourito, parce qu'il avait fumé un cigare devant c'était quoi la ONCE, je crois, devant ses
coéquipiers. Il avait le temps de fumer le cigare tellement il allait vite, oui. Mais après, bon, je ne pense pas qu'il fume des cigares toutes les victoires.
C'est pas trop compatible avec le sport, le vélo.
Voilà, donc cette Vuelta pour vous, messieurs, on va conclure dessus. On en reparlera peut-être tout à l'heure en fin d'émission. Quels sont les enjeux? Parce que demain.
J'espère que les Movistar vont se réveiller parce qu'ils sont, pour l'instant, ils sont pas sur le podium. Donc, j'espère que aussi bien Quintana que Valverde, si le spectacle peut être, je pense que c'est eux qui vont le faire. Ils vont l'animer.
Il faut qu'ils mettent le paquet. Mais bon, ouais. Si on compte sur eux comme pour renverser Froome, on est mal barré.
Non, pas Froome, Tom Dumoulin.
Non, renverser Froome autour.
Ouais, si il va falloir changer de tactique.
C'est certain. Mais enfin, bon, ils sont peut-être placé un peu en retrait pour partir de loin peut-être et aller essayer de... Mais bon, ça va être compliqué. Mais
il n'y a pas tant d'étapes que ça pour faire ça. Ça me dit.
Demain, il y a une première catégorie, mais ça finit en descente. Il reste 10 bornes après.
Je ne vois pas les Movistar chez eux en Espagne rester sans rien faire, sans rien tenter pour au moins aller faire une place sur le podium.
Il reste 10 bornes après le premier catégorie. Après, il y a d'autres étapes un peu compliquées en fin de semaine, mais rien d'impossible pour Tom Dumoulin. En revanche, samedi, il y a enchaînement de cols première catégorie. On sait que c'est ça qui avait été compliqué pour lui, il me semble que c'était dimanche, si ma mémoire est bonne, qu'il avait craqué.
Attends.
Il me semble que c'était dimanche qu'il avait craqué, mais c'était pas un enchaînement. Et là, ben, c'est ça. Est-ce que Tom Dumoulin et Haru, ils vont rester dans un mouchoir de poche ou est-ce que Haru va mettre le feu?
Eh ben, si on devait, moi, je vais pas.
Qui va gagner la Vuelta?
Tom Dumoulin.
Tom Dumoulin.
Allez, je vais garder la stat des personnes qui n'ont pas fait plus de 10 jours de grand tour dans l'année. Donc, Tom Dumoulin, je pense que le parcours qui reste, avec pas d'arrivée au sommet, va lui permettre de pouvoir revenir avec ses temps de rouleur s'il y a une échapper et sinon il va profiter.
Ça joue au bonif.
Ouais, mais il y a par exemple des coureurs comme Valverde qui vont faire les sprints pour les étapes si ça arrive groupé. Et là Tom Dumoulin face à Fabio Aru en sprint plat.
Et oui, Dumoulin est plus rapide, mais
non, je vais parier sur Tom Dumoulin.
Il faut espérer pour Dumoulin qu'il y ait des étapes très animées en fait.
Non, je sais pas, mais de toute façon il peut
à l'avant. Avec des échappées.
Ouais, aussi, mais de toute façon, en plus, s'il a une équipe faible en montagne, il va profiter du train Astana qui est les plus forts.
Dumoulin aussi.
Haru.
Haru aussi pour moi. J'avais misé sur Dumoulin qui est à 5,50 il y a une semaine. J'espère que ça sera Dumoulin, mais je mise Haru quand même parce que je suis lucide. On revient avec le sélectionneur lucide lui aussi. Bernard Bourreau, dans quelques instants, vous êtes sur cette radio.
Radio, pop, rock, sport. L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins. Car la retourne là. Il est quelle heure au Guatemala? J'ai jamais pris de fusée horaire. Toujours suivi les mêmes schémas. Car la retourne.
Messieurs, de retour dans cette émission, pas du lundi, mais du mercredi 9 septembre 2015, on essaie d'avoir Bernard Bourreau au téléphone, mais il se cache, il ne veut pas nous donner la composition pour ces mondiaux de Richmond, donc on ne sait pas quoi faire. Est-ce que Nicolas, tu as réussi à le rattraper au vol par là?
On va l'avoir dans quelques secondes, il est peut-être en train de finir de manger le sectionneur Bernard Bourreau. Guillaume?
Non, c'est pour peut-être faire ma rubrique en attendant.
Mais tu peux la commencer, figure-toi.
Même si on n'a pas le générique, c'est pas grave.
Julien, il va toujours te trouver ça sous le coude, le temps qu'on rattrape au vol le sélectionneur. Bon, je ne sais pas si tu vas commencer par ça. Tu vas commencer par l'actualité de la semaine, sur quoi tu as fait un article. Je te lance pas là-dessus.
Je voulais finir par ça.
Bon, ça marche. On est où, Guillaume? On avait fini ou pas le salon de
fini,
l'autre
fois? T'as dit qu'on avait même pour au moins deux mois de parler de vélo et de pognon, justement.
J'avais fini pour les transmissions, mais alors c'est pas fini du tout après. Donc aujourd'hui, je vais parler de...
Des vélos qui cassent, non?
À la fin. J'ai réservé le meilleur pour la fin. Donc, au niveau des nouveautés, il y a Campagnolo qui sort enfin des freins direct mount. Donc, j'en avais déjà parlé plusieurs fois. C'est un nouveau système de fixation de freins. Et jusqu'à présent, il n'y a quasiment que Shimano qui le proposait. Et d'ailleurs, il y a Valverde, il y a deux ans sur la route du Sud, j'avais pris des photos. Il a un groupe Campagnolo, il avait des freins du race à cause de ça. Donc ça y est, enfin Campagnolo.
Directement, c'est la position de l'étrier sur la fourche, c'est bien
voilà,
ça.
Voilà, au lieu d'avoir un seul point d'ancrage, il y a deux points d'ancrage, c'est plus rigide.
Comme on a sur les motos VTT.
Voilà, donc et ça y est, ils sortent enfin, parce que je pense que aussi vis-à-vis du sponsoring, c'est pas top quand ils ont des coureurs qui roulaient avec ça. Donc par contre, c'est un étrier hors groupe, ça veut dire c'est pas ni un étrier record, super record de Corus, c'est vraiment un étrier à part qu'on peut acheter, il n'y a pas marqué Corus ou autre dessus. Autre nouveauté, c'est chez Zip. Donc au niveau des jantes, il n'y a pas de modification. Par contre, toute leur roue maintenant adopte de nouveaux moyeux 77-77. Ça, c'est pour le nom de code pour les spécialistes. Un des avantages de ce moyeu, c'est qu'il n'y a plus de réglage de pré-contrainte du jeu. Alors ça, c'était souvent ce qui était critiqué, reproché aux roues Zip, c'est qu'il fallait souvent resserrer une vis parce que ça prenait du jeu. Donc apparemment, ils ont résolu le problème. Il n'y a plus de jeu à régler. Nouvelle géométrie des flasques, ce qui fait que les roues sont plus rigides latéralement. C'est ce qui était un peu reproché aussi parfois sur ces roues-là. Donc peut-être qu'on obtiendrait là le top de la roue. Vous savez que j'ai entendu beaucoup de spécialistes sur le salon Robaille qui disaient que c'était vraiment les meilleures jantes qui se faisaient actuellement. Après, les rayons et les moyeux étaient encore critiquables. Peut-être que ça ne sera plus le cas désormais. Donc au niveau des tarifs, par contre, là, le générique va... très bien, c'est vrai que les roues par contre sont assez onéreuses, mais bon, apparemment tous ceux qui en ont acheté ne le regrettent pas. Après Vittoria qui sort d'une nouvelle gamme de pneus, alors avec une nouvelle composition et du graphène. Alors j'ai publié l'article ce soir moi sur Matos Vélo. Il y a une vidéo dedans, vous pouvez aller voir si vous voulez. C'est assez impressionnant parce qu'ils auraient réussi à faire donc un pneu avec beaucoup de grip, très endurant et surtout quasiment increvable. Donc c'est toute la gamme Vittoria, Corsa, etc. Donc des pneus et boyaux que tout le monde connaît. Et sur la vidéo, on voit une roue de vélo donc passer dessus sur des clous et ça crève pas. Donc moi, il me tarde de tester. Parce que c'est vrai que s'ils arrivent à sortir vraiment un pneu avec beaucoup de rendement léger, du grip et qui crève pas, je pense qu'ils vont faire un carton. Donc à voir dans les semaines à venir. Mais si vraiment ils y sont arrivés, chapeau. Et enfin, je voulais revenir sur l'affaire du vélo caché de Movistar, dont tout le monde a parlé. Enfin, tout le monde, oui, si tous les journaux en ont parlé cette semaine. Pour ceux qui sont pas au courant, donc on a vu une vidéo amateur où on voit un mécano de Movistar descendre d'une voiture Movistar, descendre un vélo et demander à notre mécano de le cacher vite pour que personne ne le voie. Donc bien sûr, tous les journaux de suite, c'était les grosses rumeurs comme quoi le vélo, il y avait peut-être dedans quelque chose qu'il fallait pas voir, style un moteur électrique, etc. Donc moi, j'ai bien regardé la vidéo. En fait, le vélo, il était cassé au niveau de la tige de selle. Donc là, c'est vrai qu'il y en a plein qui m'ont dit « Ouais, mais pourquoi s'il est cassé, ils veulent le cacher ?» Donc ça, après, c'est contractuel avec les mécanos. Les équipes n'aiment pas trop qu'on prenne les vélos qui sont cassés en photo. J'avais déjà eu le cas, moi, avec une équipe où je voulais prendre juste un vélo qui avait chuté, qui n'était pas cassé, qui était rayé. J'avais pas le droit. Donc voilà, c'est contractuel. Je peux le comprendre aussi. Mais voilà, il n'y a pas de moteur. Je suis pas allé voir. Hein.
C'est l'image de marque.
Voilà, là, c'est vraiment pour protéger la marque qui fournit les vélos.
Le vélo de Nairo Quintana a été contrôlé aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un peu de suspicion du coup sur Movistar, mais l'explication se tient. Hein. C'est vraiment pas valorisant ce qui leur arrive.
Non. Ce jour-là, d'ailleurs, je crois que le vélo de Nairo Quintana a été contrôlé. Apparemment, ouais. Il y a pas mal de contrôles cette année sur la Vuelta.
Plusieurs vélos qui ont été cassés ouais. Bon, à la même étape. C'est vraiment pas bon pour l'équipe.
Non, on prend le cas de la Sky, on n'en a pas trop entendu parler, mais ils ont eu beaucoup de casses énormément de leurs vélos. Ça, c'est pas trop su. Moi, je le sais par oreille interposée. Mais leur fameux Pinarello, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, et pourtant on n'en a pas le temps de pas trop parler.
Et là, c'est Pinarello aussi
Non, là, c'est Canyon, mais ça, Canyon. Voilà, ça se comprend Canyon. Aussi. Parce que, bon, apparemment, il y a eu une grosse chute, donc un vélo qui casse sur chute, c'est normal. Hein.
Après, le problème, c'est que sur du carbone, des fois, sur le moment, on ne voit rien, on ne décèle rien. Et malheureusement, c'est que le carbone, il casse comme ça de but en blanc, des fois, sans.
Ouais. Ça pourrait être très grave.
Problème, c'est le problème du carbone, quoi. L'acier, encore, il store, etc. Mais bon, là, le carbone, c'est
ça casse de suite. Alors, c'est vrai qu'on fait des vélos de plus en plus légers qui cassent facilement sur des grosses chutes. Donc après, les marques, veulent se protéger parce que les gens, s'ils voient un vélo cassé, ils comprennent pas toujours que c'est à cause d'une chute. Et de suite, l'image de marque, tout le monde va dire, cette marque-là, ça vaut rien. Alors que, comme le disait Julien, c'est valable dans toutes les équipes. Il y a beaucoup de cases de cartes, sauf que.
Il faut savoir que c'est des prototypes, quoi. Je veux dire que c'est des vélos qui sont vraiment.
Justement, on essaye peut-être pas, parce qu'il y a pas que les chutes. Je pense qu'il y a aussi de la casse, pas que par rapport aux chutes, là, dans le coup, pour cette équipe. Est-ce qu'on va pas trop vite, on valide pas trop vite les vélos pour la compétition? Ils utilisent des vélos que monsieur tout le monde n'utilise pas peut-être?
Alors au niveau des géométries, c'est des vélos quand ils sont validés par l'UCI. Après ils ont des vélos, ça on me l'a expliqué sur le Robike, qui alors souvent même ils sont un peu plus lourds que le grand public d'ailleurs, parce qu'ils sont plus rigides. Parce que les coureurs développent une puissance quand même assez conséquente, donc ils sont un peu plus lourds, un peu plus rigides, surtout que comme ils sont limités, enfin ils ont la limite de 6 kg de l'UCI, donc ça sert à rien qu'ils ont un cadre à 700 grammes. Mais ça n'empêche pas que c'est devenu très très fragile, très léger, très fragile. Donc ça casse assez souvent. Et comme disait Julien, les marques en font pas spécialement la pub. Donc là, effectivement, on a vu un vélo Canyon, mais c'est valable chez toutes les marques. Chez toutes les équipes, il y a de la casse. Et effectivement, ils communiquent pas trop dessus, hein, ce qui est normal. On communique pas quand il y a ce genre de problème.
Non, après, c'est pas forcément une question de période de test. Aujourd'hui, on voit bien. Certaines équipes, ils reçoivent des vélos quelques jours avant le tour de départ du Tour de France. Donc les mécanos, faut qu'ils évitent, ils montent les vélos. C'est des nouveaux vélos, donc on n'a pas de recul. Et forcément derrière, il peut y avoir, on ne le sait pas, parce que c'est très bien caché. C'est le but aussi, c'est la publicité aussi. On ne va pas montrer qu'un cadre casse. C'est la publicité contraire à ce qui doit être fait.
En plus, c'est la tête de proue, quoi. Les pros, c'est vraiment la publicité ambulante.
Les gens viennent voir, les photographes viennent voir, viennent prendre des photos des vélos, des groupes qu'il y a dessus. C'est de la nouveauté. Donc aujourd'hui, on est fiers de ça. Si c'est pour voir un vélo qui a cassé ou autre, ça sert à rien, quoi.
Voilà, c'est pour ça que même les mécanos, que ce soit moi ou d'autres médias, on nous interdit en général de prendre un vélo, c'est en photo s'il est tombé, s'il est rayé ou autre, parce que ça fait pas une jolie image pour la marque. Donc donc apparemment pas de moteur dans le vélo du Movistar. Moi, cette histoire de moteur, j'y crois pas trop. Peut-être que ça a été le cas fut un temps. Maintenant, il y a tellement de contrôles, je pense que le risque ça serait assez énorme qu'un coureur utilise un moteur. Donc moi j'y crois pas, mais bon, après je dis pas que
est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les grandes épreuves comme il se fait d'un petit peu dans les motos, dans les circuits de moto, etc., où ils badgent, on va dire, les motos pour vérifier qu'il n'y a rien qui a été modifié. Est-ce que tu as entendu s'il y avait des choses qui étaient prévues comme ça au niveau des grandes épreuves pour justement éviter qu'il y ait des remplacements, des modifications?
Non, parce qu'en fait ils ont pas de limite vraiment pour remplacer le vélo. Là, il n'y a pas un vélo qui serait validé en début de Tour de France ou deux vélos. Là, ils n'ont pas de limite vraiment. Donc, c'est vrai que les contrôles, même sur le matériel, sont assez difficiles à faire parce que on l'a vu avec cette histoire qui est arrivée à la Vuelta. Rien n'empêche une équipe de changer un vélo en cours d'étape. Là, ça s'est vu parce qu'il y avait un spectateur, mais ça aurait très bien pu ne jamais se voir. Donc, non, il n'y a pas vraiment de suivi, on va dire, tout le long d'une épreuve sur les vélos.
D'accord.
Donc c'est vrai que ça a fait beaucoup de buzz cette semaine.
Mais c'est vrai qu'on est tout le monde est à cheval là-dessus. Il y a encore une vidéo que j'ai vue d'une personne qui monte des vélos là et qui a installé justement ce fameux moteur-là dans un vélo où on voit quand il appuie ça tourne tout seul. Oui, forcément. C'est sûr qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies feront que dans des espaces très réduits, très restreints, on arrivera à mettre des moteurs très performants avec des batteries qui durent longtemps. C'est sûr qu'on y va.
Oui, après, on y va. Ça existe, mais les batteries sont encore assez grosses. Souvent, c'est installé sous la selle. Donc, c'est quand même visible. On n'est pas encore arrivé à miniaturiser, notamment la batterie, suffisamment pour que ça soit pas du tout. Donc, mais c'est vrai que moi, ça m'a un peu énervé tous les journaux qui ont repris ça en boucle de suite. C'était la suspicion.
Ouais, c'est le buzz, quoi.
Voilà. Il n'y a pas de cas de dopage, on va dire, EPO et tout en ce moment. Donc, de suite, c'était, suspicion de dopage mécanique. Alors que finalement, si on rate bien la vidéo, c'était une casse de vélo, comme il y en a régulièrement.
Et si sur le tour, on avait vraiment contrôlé tous les vélos, on parlerait plus de cette suspicion, malheureusement. Il n'y a pas encore les moyens de mis là-dessus. On va continuer avec une nouvelle chronique. Mélanie, il faudra te trouver d'ailleurs le générique qui va bien. Hein. Tu nous mettras le secanto, je ne sais quoi. on ne sait pas encore de quoi on va parler. Hein, donc, formidable, je ne sais pas. Hein.
Écoute, la
pression.
Je la mets en condition. Hein.
Nous étions formidables. Elle est encore en période d'essai, là.
Mélanie, que vous retrouvez également donc bien sur le Twitter du comité @midivélo, et puis tout au long de l'année donc avec des beaux projets, déjà pas mal d'actions cet été. D'ailleurs il y avait pas mal de courses. Qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de l'été en région Midi-Pyrénées? On dit pas encore Pyrénées, Languedoc ou Roussillon,
ça
il y a des bacs qui est lancé. Moi je dirais Pyrénées, Languedoc ou un truc comme ça.
Je suis sur Occitanie.
On peut pas s'approprier l'Occitanie comme ça. Ouais, tu vois, nous on a quitté l'Occitanie, mais bon, bref. Mélanie, alors là, c'est la minute du comité.
Alors bon, moi je vais vous parler des résultats de la sélection régionale pendant l'été. Je vais commencer par le Trophée de France des jeunes cyclistes.
Où j'étais en tant que mécanicien.
Jeune cycliste, tu
Ah oui, jeune cycliste, mais pas moi, je ne suis pas encore en tant que mécanicien. Bon,
c'est que tu es jeune cycliste et vieux mécanicien.
Exactement. Ah, voilà.
Donc la sélection a fini troisième, avec bon, mais de très bons résultats sur les trois jours. Les enfants ont été formidables, on peut le dire, sous la chaleur. Ils ont notamment fini deuxième des épreuves sur route. Et premier du QCM, donc félicitations.
C'est une belle performance, c'est une première ça.
Le comité avait déjà remporté un titre de champion de France des écoles vélo. C'est une très belle performance parce qu'on ne s'attendait pas forcément à avoir un aussi beau résultat. Il a fait des conditions de chaleur vraiment extrêmes. La préfecture avait été là d'annuler les épreuves, donc ils ont dû retarder des épreuves. C'était compliqué, mais bon, on a réussi à se jouer un petit peu de ces conditions difficiles. Tous les gamins ont été vraiment formidables et c'est vrai que la sélection s'est très bien comportée et je les en remercie. C'est du boulot pour un seul mécanicien quand on voit que dans notre comité il y a 3 voire 4 mécaniciens. Mais la récompense de faire un podium, voilà, c'est de partager des moments avec des gamins, leur donner le savoir que l'on a, et ils nous l'ont rendu bien derrière, donc c'est magique.
Merci à Julien pour avoir été mécanicien.
Et les autres résultats, Mélanie, marquants de l'été?
Alors, il y a eu donc les championnats de France de l'avenir sur piste hier. Donc, le comité a ramené 7 médailles.
Ce qui est bien aussi.
Ouais, ce qui est très bien. Donc, 4 médailles de bronze. Une pour Aurélien Costeplan en poursuite. Une également pour Eva Orliac également en poursuite. Valentine Fortin sur la course au point. Et l'équipe de Cadet Junior composée de Cédric Brière, Tristan Seliver et Alexandre Finos en vitesse par équipe. Donc ça c'était pour les médailles de bronze. Les médailles d'argent, Valentine Fortin en a remporté 2, une sur le scratch et une sur la poursuite. Et enfin Aurélien Costeplan est devenu champion de France de la course au point. Donc voilà pour les bons résultats de la piste.
Aurélien Costeplan a été sélectionné pour le...
Oui, justement, j'allais le dire.
Je te devance, excuse-moi.
Donc suite à ce championnat, Valentine Fortin et Alexandre ont été sélectionnés pour des épreuves internationales. Valentine a fait le FOJ, donc Festival Olympique de la Jeunesse Européenne. Et Aurélien a fait donc le championnat d'Europe, où il a fini 4e sur la poursuite. Et il a enchaîné avec les championnats du monde, où là, il a fait 14e sur l'Omnium. Voilà.
Donc de très bons résultats pour la sélection régionale pour l'instant Midi-Pyrénées.
Mélanie, je te coupe un petit peu dans cette chronique régionale. Bien sûr, nous sommes en direct, alors condition du direct. Nous avons notre invité au téléphone, Bernard Bourreau, le sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme. Bernard, est-ce que vous nous entendez?
Oui, bonjour, oui, je vous entends très bien, excusez-moi.
C'est pas grave, bonsoir et bienvenue dans Radio Vélo. Ben, on voulait vous avoir au téléphone quelques minutes, ben, peut-être pour savoir tout simplement quel est le quotidien des sélectionneurs de l'équipe de France de cyclisme, à quelques jours de donner une sélection, et puis à quelques semaines tout simplement des mondiaux, du grand rendez-vous de l'année, Bernard.
Ah ben, le quotidien en ce moment il est assez sous pression hein, parce que je dois m'informer sur tout ce qui se passe un petit peu dans le cyclisme actuel hein, des résultats sur le Tour d'Espagne, sur toutes les courses qu'il y a pour voir un peu où en sont nos coureurs, où en sont même les étrangers aussi hein, parce qu'on va les confronter aux championnats du monde. Et c'est vrai que bon, en ce moment je passe une période un peu difficile. C'est la période la plus difficile pour un sélectionneur avant de donner la sélection quoi. C'est toujours quelque chose de très stressant et de très très difficile à vivre.
Et justement, vous avez choisi donc d'atteindre les courses qu'il y a du côté du Québec et de Montréal avant de donner la sélection, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui, c'est exactement ça, parce que j'ai pas de... ce championnat, c'est pas un championnat qui est comme les autres, hein. c'est un championnat qui est pour des routiers sprinters, pour des punchers, pour des coureurs qui ont l'habitude des courses du Nord, parce que c'est pas très très dur au niveau difficulté, mais ça va être très difficile à négocier, très acrobatique un peu, faudra toujours être bien placé, etc. Donc, mais il faut quand même des gars en forme, et tous ces coureurs-là sont sur des épreuves en ce moment. Il y en a sur le Tour d'Espagne, il va y en avoir, il y en avait quelques-uns qui étaient sur les courses françaises cette semaine, et puis d'autres qui vont être sur le Canada cette semaine. Et je ne pouvais pas, pour des raisons bon, qui me sont propres, hein, parce que le sélectionneur, il a un peu de tranche, hein, je ne pouvais pas donner ma sélection avant que le Québec soit passé et que la Volta soit terminée, quoi.
Julien.
Oui, bonsoir Bernard. Moi j'avais une question. Je suis coureur depuis trop longtemps et on m'a toujours appris quand je visais un objectif de le préparer longuement d'avance. Et je me disais, mais comment un sélectionneur peut, où est-ce qu'il a les moyens de par rapport à l'objectif qui est le champion du monde, de préparer des coureurs avant, ou comment ça se passe? Ça a l'air très compliqué, quoi.
Oui, c'est compliqué, mais bon, je suis d'accord avec vous, et j'ai toujours appliqué cette méthode aussi, hein. J'ai souvent appliqué cette méthode, mais là, c'est un peu particulier. Bon, de toute façon, les coureurs, ils sont sur des épreuves, ils se préparent, et puis ils vont pas être sélectionnés, ils vont pas l'apprendre du jour au lendemain. Je peux vous dire que, déjà, de nombreux, ils sont tous au courant de ce qui se passe, et des problèmes que je rencontre, et des problèmes qu'ils ont. Donc, à partir de là, tout le monde sait où il va quand même. Maintenant, voilà, à un moment, il va falloir que je tranche pour prendre les 9 coureurs qui font le mondial, avec des leaders et avec des équipiers. Donc, voilà.
C'est pour ça que
c'est un peu compliqué, quoi.
On imagine, Bernard, ben oui, qu'il y a une base à chaque fois sur cette liste, avec un noyau dur qui est à peu près certain, sauf gros pépin, de faire partie de la sélection. Comment ça se passe là? Est-ce qu'il y a par exemple un ou deux noms où la liste peut changer? Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un ou deux coureurs qui sont pas sûrs d'y aller, ou est-ce que vous attendez de voir leur état de forme jusqu'au dernier moment, ou est-ce qu'il y a une performance d'un garçon qui gagnerait Montréal ou Québec qui changerait la donne? Comment ça se passe en fait?
C'est un peu tout ça, hein, quand même, hein. C'est un petit peu tout ça, hein. C'est que si je donne pas ma sélection, c'est que les coureurs ne confirment pas vraiment leur état de forme ou leur optimisation. Enfin, ils sont pas au maximum de leur forme. Donc, j'attends de voir qui remettent en route, qui essayent de se montrer et puis d'atteindre un meilleur niveau. On sait très bien qu'un coureur, il a des périodes de forme, il a des périodes de coupure, et après il se reprépare pour revenir en forme. Donc c'est pas souvent faire une sélection. Des fois à long terme ça peut être valable, mais quelquefois ça ne l'est pas. Pour un parcours très sélectif ou très dur, pour des grimpeurs par exemple, il y a moins de problèmes. Pour des routiers, pour un circuit un peu qui est un peu pour tout le monde, parce que sur circuit tout le monde va pouvoir suivre et va pouvoir être performant, hein. Enfin performant, va pouvoir s'adapter. C'est plus compliqué. Je vais attendre cette semaine la fin de la semaine pour... Bon, aujourd'hui par exemple il y a quand même une satisfaction. Il y a déjà un coureur qui est déjà sélectionné, c'est Jérôme Coppel qui vient de gagner, qui est champion de France et qui vient de terminer quatrième ou cinquième de la Vuelta aujourd'hui, du chrono. Bon, il a fait une bonne perf, quoi.
Alors justement, moi je vais reprendre le Roland Lambert. Est-ce qu'on pourrait pas d'ores et déjà prévoir une pré-liste en début de saison, ou je sais pas, plutôt pour justement préparer vraiment cet objectif-là pour qu'il soit majeur? Parce que moi j'ai la sensation, c'est que on prend des coureurs qui sont, oui, en forme en ce moment par rapport à notre effectif qu'on a, mais sans forcément le préparer vraiment jusqu'au bout pour être champion du monde, quoi.
Le préparer jusqu'au bout. Si vous sélectionnez des gars au début de saison, l'année passée, j'avais Sylvain Chavanel qui gagne le Tour du Poitou-Charentes, qui gagne le chrono, qui gagne Ploué, et au championnat du monde, il était vraiment pas bien. Bon, l'année, j'avais sélectionné Thomas Vauclair au championnat du monde, il devait y aller, il est tombé autour du Limousin. À Québec, il y avait un qui était pratiquement partant, Arthur Bichot, il est tombé, il s'est cassé la clavicule à Québec. Alors, vous voyez, c'est quand même...
C'est pas simple.
Compliqué. c'est pas simple. Hein. C'est pas si simple que l'on pense quand on est vraiment confronté au problème. Et puis les coureurs, de toute manière, ceux que je sélectionne, c'est des coureurs que j'ai déjà entraînés, conseillés, et qui ont fait des courses avec moi, soit en équipe de France, soit en équipe junior. Je connais leur mentalité. Et,
ah, on a des indices alors.
Et je fais. Oui, bah, des indices, de toute façon, ça fait 30 ans que je suis dans le vélo, ça fait 30 ans que j'entraîne des coureurs. Donc vous allez en chercher quelques-uns. Hein.
Benjamin, une question pour Bernard.
Oui, bonsoir Monsieur Bourreau. Donc ma question, ça suit un peu ce que vous venez de dire. C'était pour savoir si, à l'instar d'autres sports, vous aviez des coureurs qui étaient blacklistés à cause de leur comportement, de relations tendues avec d'autres sélectionnables, ou même parce qu'ils ont une réputation, on va dire, pas très saine. Alors est-ce qu'il y a des coureurs qui sont dans ce cas sans forcément dire de nom?
Non.
Le cyclisme n'a pas ce problème-là dans le comportement?
Non, j'ai pas. Chacun a son caractère. Vous savez, le vélo, c'est quand même quelque chose qui ramène toujours à la raison. Hein. C'est un sport qui est dur. On a toujours besoin des uns des autres, toujours. Hein. Et ceux qui se mettent en marche comme ça, en général, c'est pas très bon pour eux et ils font pas une longue carrière.
Bon, Julien, il y a un truc à faire du côté de Richemont alors pour l'équipe de France.
Oui, il y a un truc à faire. Bon, j'ai été titillé un petit peu Bernard, c'est normal, mais je comprends très bien que la place n'est pas simple, la critique sera forcément facile, mais je veux pas être à sa place parce que voilà, c'est très très compliqué. Je vois encore moi dans les clubs et les sélections régionales, c'est très compliqué, donc je m'imagine très bien là-haut. Et voilà. Non, j'espère que voilà que les Français seront comme chaque fois, seront les plus combatifs pour essayer d'être le plus souvent possible, quoi.
Oui, moi j'espère aussi. Hein. De toute façon, je fais tout ça pour. Je pense que je vous dis, enfin, j'ai essayé de faire une équipe adaptée à ce parcours. Et puis après, on appliquera des tactiques de course par rapport aux éléments qu'on va avoir, à leur qualité, à leur point fort, et puis essayer de faire le mieux possible. Mais bon, un championnat du monde, c'est un championnat du monde. Hein. Il y a ça. Moi, je dis quand on regarde la liste au départ. C'est pas 15 coureurs qui sont au départ, hein. C'est 200 coureurs avec 50 nations peut-être, et il y a au moins 120 coureurs qui peuvent être champions du monde, hein. Enfin qui sont des coureurs compétitifs, quoi.
Du côté de l'ensemble de l'équipe de France, les filles, les espoirs, est-ce que vous suivez ça d'une vue d'ensemble?
Oui, bien sûr. Ben, c'est évident. Je suis quand même en contact avec mes collègues entraîneurs, hein. Surtout sur la route, hein. Plus sur la route que sur la piste, mais c'est évident. Hein. Mais je continue à suivre les résultats des féminines, ouais. Des juniors et puis des espoirs surtout, parce que c'est une catégorie que j'ai lâchée dernièrement et que je compte, c'est les futurs professionnels et je les suis, oui.
Ouais, du côté des espoirs, il y a des chances plus que d'autres cette année?
Ah oui, 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 ouais. Je veux pas, bon, on va pas leur mettre la pression, mais non. Je pense que cette année, il y a des réelles chances, et puis il y a vraiment une super équipe. Il y a quand même trois coureurs qui sont dans les équipes pro, qui sont dans l'équipe continentale, hein, pro, ouais, et qui font des courses, et qui se sont avérés et qui ont eu des super résultats cette année, quoi, qui ont eu du très bon résultat. Ils ont de l'expérience, et je pense que l'équipe, elle va être compétitive.
Allez, avant de vous remercier Bernard, parce qu'on sait que le programme est chargé, juste un mot quand même là où vous étiez aussi cet été du côté de Rio, parce que oui, ces championnats du monde de Richemont, c'est peut-être le dernier grand rendez-vous de l'équipe de France avant les Jeux Olympiques de Rio. Quels enseignements vous en avez fait de ce déplacement à Rio?
Ça a été la préparation des Jeux déjà. Je suis rentré dans la période de préparation. Ce déplacement à Rio, c'était test event, hein. C'était donc le test event, c'est-à-dire les pré-olympiques. Une épreuve qui nous permettait on a couru sur le parcours olympique. On n'a pas fait la totalité de la distance, mais on a fait les parcours en entier, même plusieurs fois, puisque ce sont des circuits. Et ça permet aux coureurs de repérer ce parcours, et puis en fonction de ça, de voir les particularités, ce qu'il faut préparer, comment se préparer au mieux pour atteindre l'objectif l'année prochaine, quoi. Donc le circuit de Rio, c'est vraiment pas le circuit de Richmond, hein. C'est pas du tout les mêmes coureurs qui seront, je vous le dis tout de suite, hein, qui seront là-bas, parce que c'est un parcours qui est montagneux, quoi, qui est très très difficile, très sélectif.
Ok, bon, ben on va suivre tout ça. En tout cas, Bernard Bourreau, merci d'avoir pris un peu de temps pour passer dans l'émission Radio Vélo ce soir.
Ok,
Merci.
Au revoir à tous et merci.
Bonne continuation.
Merci, bonne
au revoir, merci. Merci. Donc c'était Bernard Bourreau, le sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme. Mélanie, on revient à ta chronique, on revient à nos moutons, même si c'était fort intéressant quand même, le sélectionneur, oui. Mélanie.
Oui, alors donc j'en étais au résultat des sélections. Donc après les championnats de France de l'avenir sur piste, se sont déroulés il y a 3 semaines, les championnats de France de l'avenir. Donc comme résultat, en junior, Maxence Moncassin termine 10e du contre-la-montre et 11e de la course en ligne. Ensuite, chez les cadettes, minimes cadettes, Audrey Mathieu termine 10e, donc très bon résultat pour Audrey. Chez les cadets, Cédric Foncarne fait 24e. Et enfin, chez les espoirs, Mathieu Caramel termine 15e. Donc voilà globalement pour les résultats de l'été pour la sélection régionale.
Un mot enfin sur le rendez-vous de ce week-end, ouais. Tout ce qui va t'occuper d'ailleurs ce week-end. Après, on passera un petit coup de fil à Max pour terminer l'émission. Mais deux autres sujets. Ouais, Sentez-vous Sport, ça s'appelle, ouais.
Alors, c'est Sentez-vous Sport. Donc, c'est un événement qui est organisé par le CROSS et le GDOS. Donc, c'est dans le cadre de la Semaine européenne du sport. Je pense que vous en avez entendu parler. Et donc, c'est donc ce week-end, les 12 et 13 septembre, à la Prairie des Filtres, dans Toulouse. Donc, le comité aura un stand avec un petit parcours d'initiation pour les jeunes. Avec, bon, ça mélangera un peu VTT, BMX et route. Et après, on aura le simulateur de course pour les plus grands.
D'accord, voilà. Donc ça, c'est à la Prairie des Filtres à Toulouse,
voilà, c'est ça.
D'accord, ouvert à tout le monde, gratuit, ouais, on y va comme on veut. Guillaume ira y faire un tour.
Non, je ne suis pas là.
Ah non, il n'est pas là. C'est vrai, il nous a déjà dit. Et ce week-end, d'autres rendez-vous?
Alors, ce week-end, donc il y a pas mal de courses. Donc tout d'abord, samedi à Tarbes, il y a la première partie du championnat régional de l'Omnium. Donc ça sera des cadets aux seniors. Samedi aussi, il y a le prix des fêtes de Mancier. Donc l'épreuve est ouverte aux minimes, dames minimes cadettes PC-PCO. Samedi et dimanche se déroulera également la cyclosportive La Casartelli avec le contre-la-montre samedi et l'épreuve en ligne le dimanche. Dimanche toujours, le vélo club de Rodez organise le 25e souvenir Jean-Marie Bermond. Donc l'épreuve est ouverte aux minimes, dames minimes cadettes, cadets, deuxième catégorie, troisième catégorie, junior, PC, PCO. Rien que ça. Ensuite, donc toujours dimanche, aura lieu la course cycliste de Beausens. Donc épreuve ouverte aux minimes, dames minimes cadettes et cadets. Et enfin, donc dernière épreuve du week-end, le XCO Larabastinoise. Donc à Rabastens, épreuve.
Ça, c'est du cross-country, ça.
Voilà, c'est ça. Pour les jeunes vététistes. Voilà pour le week-end.
Et je vais rajouter, pour ma part, pour ceux qui ne font pas de compétition, il y a la randonnée lavoréenne organisée à Lavore par le Lavore Vélo Club. Il y a toutes les informations sur le site du Vélo Club. Voilà.
Bon, ça fait un week-end très chargé. C'est bien de voir que même au mois de septembre, encore, on a pas mal de courses. Vous savez que certaines régions sont assez en manque de courses. Finalement, on a encore pas mal de courses dans le coin.
Ouais, non, là, ça reprend un peu début septembre. C'est vrai que fin août, il y avait très peu de courses. On a eu 2-3 courses par semaine. Mais bon, là, c'est vrai que ça reprend un peu jusqu'au premier cyclocross qui aura lieu le 3 octobre.
Bon, ça fait un gros programme. Merci Mélanie pour cette première minute du comité qui ne dure pas une minute, vous l'avez remarqué. On va avoir notre ami Max dans quelques instants pour la minute Mad Max. Mais avant cela, coupure pub, c'est ça, Julien?
Il faut qu'on lance la coupure pub.
Coupure pub et restez avec nous parce que, eh bien, on ne décroche pas, on reste ensemble, on dépasse un petit peu les 20h ce soir.
C'est ta radio. Pop, rock, sport.
L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins. Carla retourne, Carla retourne.
Mais si on déborde, mais il faut revenir parce que c'est pas encore fini l'émission là.
Eh ben oui, on m'a dit qu'il n'y avait plus Claire Chazal, alors avec Claire, on continue.
Il y a du scoop, il y a du scoop.
On continue, c'est pas grave. D'ailleurs, TFN, donc je disais, fait le ménage, mais l'équipe des sports de France TV, il faut pas encore le ménage, c'est dommage. sur ce, non, restons neutres. Bien que c'est pas ce qui le qualifie le plus à notre chroniqueur Mad Max. On n'a pas encore le générique de Minute Mad Max, mais j'ai ce qu'il faut.
Ouais, mais donc du coup, il est chroniqueur, du coup, j'ai vu passer des choses un petit peu.
Il est chroniqueur. C'est comme, je sais pas, moi, il y en a plein et qu'il faut plusieurs trucs. Regarde, là, j'ai un exemple au foot, mais au vélo, il y en a bien qui sont managers d'équipe et
qui bosse pour les radios. Regarde Cyril Guimard, par exemple. Il est manager, je crois, encore à Roubaix. Et puis, il parle tout l'été à RMC. Il balance, d'ailleurs. Max, est-ce que tu te prends pour Cyril Guimard?
Non, du tout. Et puis, comme vous dites, il faut remettre les choses à leur place. On va pas parler tout le week-end de ce que je vais faire.
Ben, bien sûr.
Sans les autres.
Mais bon.
Il y en a qui veulent venir, qui veulent parler, ben, qui viennent. Nous, à fond, on est ouverts. On aime ça, Radio Vélo. Donc,
exactement. Tout le monde peut s'exprimer. Contactez-nous sur le Facebook, sur le Twitter, sur le.
Même. Venez au studio.
Venez au studio. C'est à Boulogne entre Toulouse et Montauban. Même Benjamin arrive à venir, ça a trop de casse maintenant.
Je me suis souvent perdu.
Et vous pouvez nous envoyer un mail aussi. radiovelo31@gmail.com. Max, certes, il y a eu l'annonce de la création de cette équipe et de cet investissement supplémentaire dans le vélo. Est-ce que tu voulais revenir là-dessus ou tu as d'autres infos, d'autres clins d'œil à nous faire?
Non, si je dois revenir là-dessus, on passera par autre chose. On n'a pas besoin de rester longuement là-dessus. Chaque chose, on s'entend.
Est-ce que le projet avance bien comme tu le souhaites?
Ben ouais, d'accord. Et bon, mais vu que vous insistez, je vais profiter du passage pour dire que j'ai bien reçu le message de tout le monde, mais franchement, je peux pas répondre à tout le monde sur Facebook et tout ça.
T'es le mec qui a gagné une étape du tour.
Non, mais sans déconner, j'ai jamais vu ça, quoi. Je sais pas quelle course vaut ça, quoi. Mais c'est vraiment, moi, c'est que du retour positif. Donc ça,
c'est peut-être ce qu'attendent les gens, quoi. Qu'il y ait des coureurs, des anciens coureurs qui s'investissent et qui fassent ça, quoi.
Ouais. Mais bon, j'ai pas envie de m'attarder dessus parce que sinon après ça va encore fixer parce que c'est pas le but.
Non, mais bon, c'est en fait l'état d'esprit de s'attarder dessus, c'est juste que c'est comme d'avoir créé un jour une émission de radio sur le cyclisme, ouais, qu'on aurait aimé écouter. Ben c'est un peu comme ça, on dit ce qu'on pense et comment on le vit,
exactement.
Voilà. Donc on est content de savoir comment on le vit.
Autant reparler avec des gens concernés, avec du monde, ça sera peut-être plus fructueux, ça sera plus intéressant peut-être.
Exactement.
Que je sois tout seul, qu'après ça parle.
Alors quoi de neuf, Max?
Donc du coup, je ça va être mollo pour aujourd'hui. Hein. C'est bon, j'ai pas pu venir en studio, je suis désolé, hein, mais bon, du coup, je suis un peu débordé.
Pas grave.
Non, j'ai bien aimé le passage du sectionneur là. J'aime bien comment il parle, ce qu'il dit, c'est vraiment intéressant. J'espère qu'il restera longtemps sectionneur. Je sais pas ce que ça va donner au niveau des courses, mais c'est comment il parle, c'est très intéressant. Après, sinon, le petit truc qui m'a dérangé de la semaine, qui a fait le buzz, c'est l'histoire du vélo avec Movistar. Ok, c'est sûr, je comprends que ça sert pour faire des articles, tout ça, faire le buzz, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire le buzz avec des choses qui peuvent aider les vélos, en fait? Parce que là, ça, on parle pas de dopage, on parle en gros de dopage mécanique, mais donc ça reste du dopage, quoi. Donc en fait, on fait pas du bien au vélo en faisant ça. Ça serait peut-être pas trop mal de parler des jeunes qui explosent, des gars de Aurélien Daniel qui a gagné trois jours à Cherbourg et qui à l'âge qu'il a, il peut peut-être à la limite espérer passer pro, enfin, je sais pas, ou des étrangers même. On pourrait faire du bien au vélo, et puis ça me dérange un peu. Donc je sais que ça aide pour faire des papiers, mais si on veut aider le vélo, c'est un peu moi comme l'histoire, j'ai créé l'équipe. Si on rentre en conflit avec toutes les équipes qui sont à côté que ça ne plaît pas, on va pas y arriver, quoi.
C'est toi qui as créé le quotidien l'équipe, en fait?
Non, non, non.
Ah non, l'équipe de vélo, bon, pardon. Non, Max, je t'interromps parce que je vais me tourner vers Guillaume. Justement, tu disais les médias, enfin Max disait que les médias ont beaucoup parlé de cette histoire du vélo, mais c'est pas forcément les médias spécialisés qui en ont parlé, c'est beaucoup de médias généralistes ou qui parlent de tous les sports.
Ouais, hein, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec Max, c'est pour ça que moi j'ai voulu réagir de suite, un peu désamorcer la chose. Pour moi, il y avait rien à dire sur on cachait un vélo parce qu'il était cassé, point. Et c'est vrai que de suite beaucoup ont monté fait monter la sauce en parlant de dopage mécanique. Et c'est vrai que malheureusement ce genre de quotidien sont nombreux, comme on le voit souvent avant le Tour de France, à reparler de dopage, etc. Et comme le dit Max, ça fait pas du bien au vélo. Il y a pas de cas de dopage. Donc voilà, on a essayé de trouver autre chose encore à dire de mal sur le vélo. Donc là, je rejoins totalement Max.
Ouais, malgré que ça te concerne bien et que toi tu peux en parler, il y aura pas de souci de ce côté-là. Mais encore une fois, on voit les ceux qui veulent s'en servir dans le mauvais sens et ceux dans le bon sens. Donc c'est dommage. Et le dopage mécanique, oui, ça va arriver. Oui, s'il faut se déjà en place, oui, etc. Ça fera des gros sujets. Mais il va falloir faire bien la distinction entre ceux qui veulent aider le vélo et ceux qui je dirais pas qu'ils veulent pas l'aider, mais bon, qui le font pas du bien, quoi.
Alors, je pense qu'il y en a qui veulent pas l'aider le vélo également. Hein. Ils sont bien contents quand il y a de quoi taper dessus. Hein. Ça fait vendre et ils en ont rien à faire si ça peut aider ou pas. Ils en sont pas là, malheureusement.
Bon, ben ça c'était tes réactions de la semaine, Max.
Ouais, bref, parce que sinon il y aurait trop à dire et c'est pas ça va pas. ça concerne pas que Radio Vélo, quoi. Donc, bon,
allez, voilà. On va te remercier et puis on va plancher sur les invités de la semaine prochaine avec la petite équipe. On te souhaite une bonne.
On espère en être là, quoi.
Bah, on espère bien et puis on te souhaite une bonne semaine, Max. Alors.
Merci.
Ciao.
Ciao.
Salut.
Au revoir.
Ciao, messieurs, dames. Maintenant, il faut que je m'y habitue.
Mesdames et messieurs.
Cette seconde émission de la saison touche à sa fin vers Radio Vélo. Nouveau format pour ça, je crois déjà quatrième saison hein, sur les ondes de CETA Radio, quelque chose comme ça, ou au moins trois, faut raconter. Hein. Depuis l'été 2012, je te laisse compter, Guillaume. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Le podcast, vous avez été très nombreux pour la reprise de la semaine dernière, on vous en remercie. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief de la Vuelta.
De Haro contre 3 du Moulin, donc c'est ça. Donc.
C'est ça, ouais.
C'est ça.
D'accord. Donc.
De Haro contre 3 du Moulin.
On va aller voir les Rentations, c'est Purito qui gagne.
Julien sera content quand même, il fumera le cigare. Merci Mélanie pour cette première, tu reviens quand tu veux.
La semaine prochaine.
T'es notre maillot vert. Allez, salut et bonne semaine.
Ciao, ciao.
Au revoir. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins, Carla retourne, Carla retourne, retourne là. Et pourquoi pas faire le tour de la terre, il est quelle heure au Guatemala, j'ai jamais pris de fusée horaire, toujours suivi les mêmes schémas, Carla retourne, Carla retourne, car la retourne, mon amour, mon sang ne fait qu'un tour. Tourne-la, retourne-la, c'est la vie là, Inch'Allah, car la retourne, car la retourne.